Investir Malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefèvre, cofondateur du site construiresaretraite.com.
Bonjour à toutes et à tous, investisseurs malins. Voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré aux investissements immobiliers sous toutes leurs formes. Et lors de ce rendez-vous, nous vous proposons de décrypter avec l'aide de notre invité une thématique sur l'immobilier afin de vous donner les meilleures astuces et stratégies.
Et ce mois-ci, nous partons dans un beau pays plein de couleurs, plein de chaleur dans le ciel et le cœur de ses habitants. Nous avons abordé le thème de l'achat à l'étranger sur notre site Construire sa retraite, mais pas vers cette destination. Et pourtant, beaucoup de médias nous relatent régulièrement le départ de jeunes retraités vers ce pays, probablement attirés par le soleil et l'ambiance. Olé ! Et cela tombe très bien car ce mois-ci, nous avons le plaisir d'accueillir Benjamin Gomez, directeur commercial et cofondateur d'Olé Immobilier, spécialisé dans l'achat et l'investissement locatif en Espagne.
Benjamin Gomez, bonjour.
Bonjour.
Votre entreprise est considérée comme un acteur majeur de l'investissement en Espagne, mais pour quelle raison aurions-nous envie d'investir à 1h30 de vol de Paris, sachant qu'il y a un déficit de logements en France ?
Bon, bah, il y a trois raisons pour moi principales pour l'investissement en Espagne, en tout cas quand on est français. La première chose, évidemment, c'est qu'on est seulement à 1h30 du coût de la France et qu'on a beaucoup d'aéroports internationaux. En Espagne, on a Alicante, Malaga, Barcelone, ce qui fait que c'est assez simple de s'y rendre. La deuxième raison, c'est le cadre de vie. Quand je dis le cadre de vie, évidemment, il fait quasiment 350 jours de soleil sur la côte méditerranéenne. C'est pas rien. À Paris, il pleut bien plus souvent.
Sur la Costa Blanca, là, hein, quand on dit ça.
Moi, même sur la Costa Brava, il fait quand même assez chaud. Et puis quand on va sur l'Andalousie, il fait même limite parfois trop chaud. Ensuite, évidemment, le coût de la vie est assez peu cher par rapport à la France. Pour vous donner un ordre d'idée, on a un menu du jour autour des 15 euros. Pour trouver un menu du jour autour des 15 euros en France, dites-moi l'adresse et j'y vais tout de suite. Et ensuite, évidemment, bah, il y a les opportunités immobilières, c'est-à-dire que trouver un appartement de chambre autour des 100 à 120 000 euros, ça va être très très compliqué en France. Ici, on peut trouver, enfin, quand je dis ici, c'est en Espagne, j'y suis encore, vous voyez, mais on peut trouver un appartement de chambre sur 120 000 euros à moins de 10 minutes à pied de la plage. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Et pour terminer, il y a tout ce qui est restrictions législatives qui sont bien moins importantes en Espagne qu'un pays bien plus laxiste où tout est quasiment possible. On monte une entreprise très très vite, on fait du business très très vite et on loue l'appartement très facilement avec beaucoup moins de paperasse que dans notre cher pays qui est la France.
Alors, mais depuis le temps finalement qu'on entend parler de l'opportunité d'investir en Espagne, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'essoufflement, en d'autres termes, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour investir ?
Alors je dirais qu'il n'est jamais trop tard. Moi j'aimerais vous donner mon cas particulier. J'ai acheté un appartement à 70 000 euros au quatrième étage sans ascenseur, donc c'était pas un cadeau. Il y a deux ans, je l'ai revendu l'année dernière 140 000 euros. Ce qui fait que...
Bravo.
Ouais, une très belle culbute, même moi j'y croyais pas, hein, pour être très clair. Sur Valence Capitale, qui est une ville qui a énormément, une croissance monstrueuse, même un peu trop à mon avis, et trop vite. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore des bonnes opportunités. Il faut simplement éviter certaines zones, à mon avis, qui ont malheureusement beaucoup trop augmenté. Je parle surtout de la Catalogne où franchement, c'est au jour d'aujourd'hui très cher. Alors pour la seconde résidence, si on souhaite passer des vacances, ça reste intéressant, notamment pour les gens qui viennent en voiture, qui sont du sud de la France, c'est beaucoup plus proche. Par contre, pour de l'achat-revente, ça risque parfois d'être un petit peu compliqué. Par contre, c'est jamais trop tard, comme je disais, il y a encore des très belles opportunités. Il suffit toujours, et ça c'est le conseil que je donne, de trouver des appartements à rénover, et Dieu sait qu'il y a en Espagne, et sur des localisations qui sont encore à découvrir. On a par exemple l'exemple de Torrevieja, et on pourra en parler sur d'autres questions, qui est une ville qui se situe à une petite demi-heure de l'aéroport d'Alicante, où vous avez un potentiel monstrueux, où vous avez trois plages sur cette ville, et faire un achat autour des 100 000 euros sur Torrevieja, vous êtes sûr que dans un an ou deux ans, vous le revendez très facilement autour de 150, 160 000 euros, sans absolument aucun effort.
D'ailleurs, en Espagne, il y a des normes environnementales, des DPE, etc., comme en France ?
Alors, pas du tout. J'espère, ou en tout cas, j'ai peur que l'Europe nous l'impose très, très, très rapidement. L'Europe nous met énormément la pression. En Espagne, la seule obligation que vous allez avoir lorsque vous faites un achat immobilier autour un petit peu comme ça des réglementations énergétiques, ça va être de vous donner le certificat énergétique. Vous n'êtes pas obligé de faire les modifications pour que ce certificat soit autour du A, B ou C. Vous devez simplement le donner.
C'est-à-dire que vous pouvez... Informatif.
Exactement. Vous donnez un certificat en G ou même en Z, j'aimerais vous dire. et c'est tout. Vous n'êtes pas obligé de faire les modifications, ce qui fait que c'est quand même assez agréable.
De notre côté, il fait toujours beau en Espagne.
Oui. Exactement.
Bon, alors supposons qu'on ait envie d'investir en Espagne. Ce qui intéresse nos auditeurs, c'est la rentabilité. On est sur Investir Malin. Qu'est-ce qu'on peut attendre, en fait?
Alors, il y a une chose qui est très intéressante sur la rentabilité dernièrement en Espagne, c'est que les locations ont explosé. Il y a énormément d'offres et assez peu de demandes, notamment avec le Covid, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail, des gens de Paris, des gens aussi qui viennent du côté britannique ou même d'Allemagne, parce que ça leur permet d'avoir une meilleure qualité de vie, avec un salaire de 1500 à 2000 euros comme on peut avoir en Allemagne. Vivre en Espagne, c'est un luxe. Et du coup, ce qui fait qu'on a énormément de demandes et assez peu d'offres, ce qui fait qu'on a des locations très très chères.
Donc des locations, excusez-moi, longue durée. Là, on n'est pas sur du saisonnier. On est sur la côte, on aurait pu penser que c'était du saisonnier. Là, on parle...
Alors, il y a deux choses à prendre en compte. C'est qu'en Espagne, maintenant, ils ont mis en place la licence touristique. C'est-à-dire qu'il faut avoir une licence touristique pour pouvoir, et notamment Airbnb vous demande, ou même Booking, vous demande directement de mettre ce numéro de licence touristique. Sinon, vous pouvez tout simplement et tout bonnement pas publier le bien. Ça, c'est important à prendre en compte. Ce qui fait que moi, je parle de location évidemment longue durée, et très souvent maintenant, même les gens qui ont les moyens sont obligés de faire de la colocation. Il n'y a plus le choix parce que les locations sont hors de prix. On parle d'une location sur un appartement de chambre sur Valence. En dessous de 850 euros, vous allez quasiment rien trouver. Ça vous paraît peut-être peu ici sur Paris ou sur la France. À Valence, c'est très cher. 850 euros, si on part sur un SMIC à 1200 euros en Espagne, il nous reste plus rien pour manger. Donc ça, c'est important à prendre en compte. C'est-à-dire la location est très très haute. Après, au niveau de l'achat, on peut trouver des opportunités autour des 100 000 euros, 100 000 à 150 000 euros. Allez, soyons fous. Ce qui fait qu'on a une rentabilité autour des 8%, voire même un peu plus si on est malin. Donc c'est très très intéressant et ça reste une assurance vie. C'est-à-dire acheter un appartement autour des 100 à 150 000 euros qu'on sait qu'on va revendre plus cher de manière obligatoire et pouvoir le louer parce que l'offre, elle est tellement monstrueuse. Voilà, ça permet d'avoir un très bel investissement et très rapide.
Alors, vous venez de nous parler de la rentabilité. Comment peut-on faire pour trouver ces petites pépites-là dont vous nous parlez? Est-ce qu'il y a des localisations plus favorables? Parce que l'Espagne, enfin, on l'a abordé un petit peu tout à l'heure, mais l'Espagne, ça se réduit pas à Madrid, Barcelone ou même Valence. Il y a toute la côte, la Costa Brava, Dorada, Blanca, Del Sol, etc.
Alors, la première chose, je dirais que c'est la localisation le plus important. C'est-à-dire qu'il faut décider clairement et il faut savoir aussi ce qu'on veut. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut être plus loin ou moins loin, est-ce qu'on vient en voiture, est-ce qu'on vient en avion? Ça, c'est des choses qui déterminent un petit peu le projet. Ensuite, je dirais que, clairement, de Valence à Alicante, on a une côte qui est hyper intéressante, qui est hyper vivante. On a des villes comme Gandia, Denia, Ravea, Oliva, qui sont des stations balnéaires, qui sont en plein essor. Et vous avez la fameuse ville de Torrevieja, que je vous ai citée juste avant. Torrevieja, c'est une ville qui est une petite 50 minutes de l'aéroport d'Alicante. On a des appartements à 100 000 euros, à moins de 10 minutes à pied de la plage. Vous avez de la vie toute l'année, vous avez des transports, c'est une ville qui est totalement sécurisée, il fait beau, on y mange pour pas trop cher, vous avez tout plein de villes autour qui sont hyper intéressantes, Murcia, Alicante, vous avez Almeria qui est aussi à 2 heures. Moi je dirais que cette zone, en tout cas si je serais un primo investisseur, j'irais clairement entre Valence et Alicante, sans aucun doute. Au-dessus de Valence...
Pas mal de zones bétonnées aussi.
Alors oui, l'Espagne, c'est pas la côte la plus jolie, on va dire, au niveau infrastructure. Parfois, on a l'exemple de Benidorm qui est...
Benidorm, évidemment.
Ouais. Voilà, qui est l'exemple un peu pas beau. Bon, après, ça a été un énorme essor. Hein. Benidorm, à l'époque, j'ai regardé pas mal de documentaires et puis j'ai pas mal lu sur ça. Dans les années 90, Benidorm, c'était un petit peu le Las Vegas européen et ça marchait très bien. Alors, ça marche un petit peu moins maintenant, même si maintenant, vous avez un tourisme anglophone et allemand qui est monstrueux, c'est-à-dire que ça se remplit, hein. Vous avez quand même beaucoup de bâtiments, ils sont tous remplis. Donc du coup, voilà, pour le conseil que je ferais, si je devrais faire un premier investissement, je me concentrerais entre Valence et Alicante, ce qui permet d'avoir l'aéroport international d'Alicante qui a des vols quasiment tous les jours pour toutes les destinations européennes. Vous avez des investissements à moins de 150 000 euros et vous avez de la vie toute l'année et du soleil.
Et les îles, j'ai envie de dire, Benjamin Gomez, vous ne nous en parlez pas, l'Espagne c'est aussi les 4 îles au Baléares. C'est aussi 7 îles, si je ne me trompe pas, aux Canaries. Il n'y a pas une opportunité aussi?
Alors, ces deux typologies, je dirais, d'îles totalement, totalement différentes. Si on parle des Baléares, donc il y a un petit saut de Cabri depuis Barcelone de l'Espagne, on est sur une zone premium, hein, clairement, c'est devenu très, très cher. Minorque, Ibiza et Palma de Mallorca, c'est vraiment une zone où on a beaucoup d'étrangers, où c'est assez cher de pouvoir acheter, où la location touristique est désormais compliquée, tout simplement parce qu'ils ne donnent plus de licence. Hein. Mallorque veut vraiment protéger son île, c'est une ville qui est vraiment très jolie, avec beaucoup de traditions. Par contre, on est sûr de vendre plus cher. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décroissance sur cette île-là et sur les Baléares. On est sûr d'acheter plus cher. Par contre, il va falloir, bien sûr, investir plus au départ parce que c'est bien plus cher que le reste de l'Espagne. Ensuite, si on est sur les Canaries, on est déjà beaucoup plus loin. On est quasiment à 3 heures d'avion de Madrid, hein, c'est pas rien. Et là, du coup, bah, c'est totalement disparate parce que vous avez énormément d'îles, comme vous l'avez dit. On est à Tenerife, on a Gran Canaria, on a Lanzarote, La Gomera et plein d'autres. Fuerteventura aussi, qui sont des îles, du coup, totalement différentes des unes aux autres. Vous en avez des îles super rocheuses, vous avez des îles super citadines comme on a sur Gran Canaria. Et là, pour le coup, vous avez des investissements super intéressants sur le sud des îles où vous allez très facilement louer, vous avez beaucoup de tourisme. Et vous avez aussi, au milieu des îles avec des montagnes ou même des lagunes, où vous avez personne et vous avez une maison à 150 000 euros au milieu des champs. Donc c'est bien plus disparate, je dirais, que les îles des Baléares, où là, pour le coup, c'est vraiment un investissement premium.
Alors, tout cela, c'est effectivement très, très attrayant. Ça donne envie, mais il doit bien y avoir des précautions à prendre, des choses trappes à éviter ou bien des risques à maîtriser. Par exemple, le cadastre. Existe-t-il pour éviter tout litige? Est-ce que c'est quelque chose que l'on a en Espagne? Est-ce que l'on passe par un notaire, comme en France? Petite subtilité, la définition du mètre carré espagnol n'est pas la même que le français. Expliquez-nous un petit peu tout ça.
Alors exactement, on n'a pas la loi Carrés ici, en Espagne, je dis ici, parce que je répète, j'y suis encore, mais du coup, en Espagne, vous avez les mètres carrés construits et les mètres carrés habitables. Alors attention, parce que du coup, c'est très flexible, comme je vous ai dit, au niveau juridique en Espagne, ce qui fait que mètre carré habitable, bah, on peut avoir un plafond à moins d'un mètre. Donc ça, il faut faire toujours très attention. Vous prenez les mètres carrés construits de toute manière, et si on arrive à retirer 10%, on fait un calcul rapide. On a les mètres carrés habitables. Je dis 10%, ça dépend évidemment des biens, mais voilà, c'est pas du tout comme en France. On a une loi Carrés qui nous permet vraiment de définir les mètres carrés qui sont habitables et non habitables. Ça, c'est la première chose. Évidemment, on a un cadastre et on a un registre des propriétés. Alors, le cadastre, il nous permet évidemment de vérifier toutes les structures qui sont en place quand on va visiter le bien. Est-ce que la piscine, elle est bien dans le cadastre? Est-ce qu'elle a bien été faite avec un permis de construire? Ça, c'est hyper important. Et nous, c'est ce qu'on fait chez Oli Immobilier. On en parlera juste après. Et le registre des propriétés, ça nous permet souvent et très facilement aussi de vérifier que la personne qui nous vend le bien est bien le propriétaire. Voilà, de manière correcte, qu'il n'y a pas d'usufruit, qu'il n'y a pas des héritiers ou n'importe quoi. Ça, c'est important. Pour terminer, le rôle du notaire est totalement différent au rôle du notaire en France. En France, le notaire contrôle tout. Il peut tout bloquer si jamais il y a un problème, il vérifie tout.
Et il engage sa responsabilité,
il prend les impôts et c'est vraiment une pièce centrale dans toute transaction immobilière. Et puis de toute façon, même au cours d'une vie, le notaire, on en a besoin quasiment pour tout, même pour mourir. Du coup, en Espagne, le notaire est simplement là pour vérifier que vous n'êtes ni drogué, ni obligé, que personne vous met un pistolet sur la tempe pour acheter le bien. Il est simplement là pour être garant, voilà, que vous êtes là et que personne vous oblige à signer. Par contre, il fait aucune vérification juridique, aucune vérification légale. Voilà, ça c'est la grosse différence avec la France. En Espagne, on dit qu'il faut être accompagné directement et que le vendeur et l'acheteur et leur propre avocat effacent les vérifications juridiques qu'ils jugent nécessaires. Le notaire, lui, il peut vous vendre un bien, ou en tout cas, il peut accepter d'être garant d'une vente totalement avec une maison qui est illégale, c'est-à-dire qui a été construite sans aucun papier, avec une piscine qui a été construite aussi sans aucun papier, avec des mètres carrés sur le cadastre qui sont à 200 mètres carrés, puis quand on visite, c'est à peine 100 mètres carrés parce que il y a une erreur, par exemple, dans le cadastre quand ils sont venus la première fois. Lui, le notaire, c'est pas son problème. Si l'acheteur et le vendeur sont d'accord, lui, il prépare ce qu'on appelle un borrador, c'est un brouillon, si vous voulez, de ce qui va se signer, hein, de l'escritura, qui est l'acte authentique de vente. Et à partir de là, si tout le monde est d'accord, c'est votre problème. C'est à vous d'avoir fait les vérifications nécessaires juridiques, si vous le souhaitez, et pour tout mettre en règle. Mais le notaire, il n'est pas là, lui, pour vérifier, ni pour vous prévenir s'il y a un problème. Et il n'est pas du tout garant face à l'État s'il y a un problème et que vous avez signé quelque chose qui n'est pas en règle.
Important, très important même, important. Je dirais. Alors, supposons qu'on a trouvé un bien par votre intermédiaire, par exemple. Il faut bien le financer. Est-ce qu'il y a des spécificités, justement, pour ce financement? Est-ce que, d'ailleurs, ça peut être pertinent de tenter de se faire financer par une banque espagnole?
Alors, il y a deux options, clairement, nous, quand on conseille nos clients pour venir acheter un bien immobilier en Espagne. Évidemment, c'est venir avec le financement depuis la France, c'est la meilleure des options, c'est ce qu'on va conseiller la majorité du temps, parce que c'est une banque qui a déjà votre historique, qui vous connaît, qui a vos salaires qui rentrent tous les mois sur votre compte en banque ou vos investissements. Enfin, c'est vraiment la meilleure des options.
Oui, mais elle connaît pas la zone dans laquelle on investit.
Exactement. Après, nous, avec notre service, on traduit absolument tout et on est capable de fournir le maximum de documents pour que la banque elle puisse vous suivre clairement pour votre achat immobilier en Espagne. C'est désormais assez assez facile. Ensuite, l'autre option, c'est évidemment obtenir un prêt immobilier en Espagne. Là aussi, une grosse différence avec la France. Pour un non-résident, vous devez apporter 30% du montant, d'accord ? Si vous demandez un crédit de 100 000 euros, pour faire un exemple, un calcul très simple, vous devez apporter 30 000 euros, c'est pas rien. En apport personnel, hein, vous devez donner et mettre sur la banque. Ensuite, les 15% de frais externes lors d'un achat immobilier en Espagne ne sont pas financés non plus. Ce qui fait que vous êtes capable, si vous êtes capable d'apporter 45% sur le budget total, vous pouvez obtenir un prêt en Espagne. Sinon, ça va être très compliqué.
C'est quoi ces 15% de frais externes ?
Alors, les 15% de frais externes, vous avez 10% d'ITP. Alors, sur certaines zones, on va être sur 6%, par exemple à Madrid. C'est l'impôt de transmission patrimoniale. Donc, quand vous achetez un bien immobilier en Espagne, vous avez cet impôt qui va toujours s'appliquer. Sur Valence, on a 10%, par exemple, sur Alicante, à 10%. Et sur Madrid, on est à 6%. Ensuite, vous allez avoir la commission de l'agence immobilière entre 3 et 6%. Et pour terminer, vous allez avoir les frais de notaire qui sont autour des 2500 euros. Moi, j'aime toujours dire 15%, comme ça englobe un petit peu. Et puis les clients, ils sont pas pris de court, quoi.
D'accord.
Alors, quel type de bien privilégiez-vous, pour un investissement ? Plutôt location vide, location meublée, location saisonnière, colocation, étudiant, dites-nous tout.
Alors, si on veut de la rentabilité pure et dure, évidemment, on partira clairement sur de la location Airbnb, Booking, la rentabilité saisonnière. Par contre, il faut prendre en compte que ça induit beaucoup plus d'efforts. Il faut avoir évidemment quelqu'un sur place, une conciergerie, ça s'appelle en Espagne, en France aussi d'ailleurs, une personne qui fait les check-in, les check-out, qui va commercialiser le bien sur les plateformes. Et puis, il va falloir aussi avoir une licence touristique. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a des zones où c'est plus possible d'en avoir, notamment Barcelone, les îles Baléares. Donc voilà, ça va un petit peu compliqué, pas compliqué, mais en tout cas, il y a des zones où on va pas pouvoir y aller. On va pouvoir acheter sur certaines villes et sur d'autres non. C'est bien plus rentable évidemment. Il faut prendre aussi en compte deux choses. La conciergerie va vous prendre entre 15 et 20%, d'accord, du chiffre d'affaires. Et puis derrière, vous allez contribuer à 19% de vos bénéfices sur cette rentabilité saisonnière. Si on fait les comptes, c'est intéressant, mais ça reste quand même quasiment 40% qu'on va défalquer directement de la rentabilité.
Et puis Costa Blanca, c'est aussi une saisonnalité, je pense, au niveau de la réservation.
Alors plus maintenant, on a du monde toute l'année. Moi, je suis parti clairement en avion avant-hier. Il faisait 20 degrés quand je suis parti, donc voilà. Et même en hiver, il fait toujours très très beau autour des 20 degrés, ce qui fait qu'il y a quasiment plus de saisonnalité. Ensuite, si on veut clairement quelque chose de plus stable, moi, je vous conseillerais toujours de partir sur la location étudiante. La location étudiante, c'est très intéressant. Pourquoi ? Si on est capable de trouver un appartement avec minimum de chambres, donc on aura le salon clairement et puis la cuisine qui va être partagée, ça va permettre d'avoir un appartement avec une chambre à 400 euros et une autre chambre à 400 euros et on a 800 euros d'assuré sur 9 mois parce que c'est de septembre à juin. C'est les parents qui payent. En Espagne, c'est très tendu au niveau location, ce qui fait qu'on est même capable de leur demander les 9 mois payés d'un coup. Donc ça assure de pas avoir d'impayés et d'avoir une belle rentabilité tout de suite.
Ok, si nous parlions un peu de fiscalité, donc on connaît, vous l'avez un petit peu abordé, on connaît l'avantage pour les résidents non habituels qui sont exonérés d'impôts sur les revenus étrangers pendant 10 ans, par exemple chez vos voisins du Portugal. Est-ce qu'il y a le même type d'avantage en Espagne ? Et puis comment ça se passe pour l'investisseur ? Est-ce qu'il y a un avantage particulier ? Et puis comment ça se passe aussi en cas de plus-value ?
Alors malheureusement, on n'a pas les avantages de notre pays voisin qui est le Portugal. Ici en Espagne, on va être toujours à 19% d'imposition, ça c'est important de le prendre en compte, et au niveau de la plus-value, on va être à 3% de plus-value, ce qui fait que c'est assez bas par rapport à la France. 3% de plus-value, ça représente quasiment rien. Sur 100 000 euros, on va payer 3 000 euros, c'est vraiment très très peu. Voilà, ça c'est un petit peu le taux d'imposition qu'on va avoir en Espagne, qui est un petit peu plus bas qu'en France.
Alors, si nous projetons un peu dans l'avenir, l'Espagne revient de loin, depuis la crise des années, on va dire 2008-2009. Elle est plutôt dans une bonne dynamique en comparaison d'autres pays européens. Le déficit de logement est un vrai problème apparemment en Espagne. Dans ce contexte, quelle est votre analyse et est-ce que c'est une opportunité ?
Une opportunité dans le temps, surtout.
Alors, moi je dirais qu'en Espagne, de toute manière, ça va continuer à croître. En tout cas, j'y crois, comme on dit. Ça fait moi 9 ans que j'y vis, il n'y a pas un seul moment où c'est descendu. C'est un pays où il fera toujours beau, où la politique est assez stable. Je ne pense pas qu'il y aura de gros problèmes en Espagne au niveau politique. Au niveau des restrictions, il n'y a pas de gros changements parce que l'Espagne sait que bien sûr tout ce qui est tourisme, tout ce qui est investissement depuis l'étranger, c'est très important pour l'Espagne et ça participe énormément à l'économie. On n'a pas de grosses industries en Espagne qui permettent de faire avancer le pays. C'est pas un pays aussi riche que la France, pour être très clair. Donc je pense que de ce côté-là, au niveau politique, il n'y aura pas de gros problèmes. Au niveau de ce qui est l'immobilier, la seule chose où on peut avoir peur, clairement, c'est que ça augmente tellement qu'à un moment donné, on arrive sur un plein fond de verre et on se dit, ben voilà, c'est aussi cher qu'en France, maintenant c'est plus intéressant. Comme c'est arrivé d'ailleurs à Lisbonne et à Porto, où c'est hors de prix. C'est-à-dire que le Portugal, désormais, quand on veut acheter un bien immobilier à Porto ou à Lisbonne, c'est quasiment aussi cher qu'en France. Donc du coup, c'est assez compliqué. Sur l'Espagne, c'est la seule, voilà, c'est la seule peur qu'on peut avoir, c'est-à-dire où est-ce qu'il est le plafond de verre au niveau de l'augmentation des prix. Au niveau de la location, au niveau du beau temps et au niveau du cadre de vie, ça va pas changer. Je pense que ça fera que de s'améliorer. Donc je pense que c'est toujours très intéressant d'investir en Espagne et ça le restera.
Alors, pouvez-vous nous dire quelles sont les prestations qui sont assurées par par Oli Immobilier dans le cadre d'un investissement? Ça va de la recherche de biens, gestion des travaux, éventuellement vous avez parlé de la rénovation, de la décoration, la mise en location, la conciergerie, la gestion locative.
Alors, jusqu'où? Nous, on a un service différent d'une agence immobilière classique qui va capter des biens pour essayer de les vendre. Nous, on accompagne les francophones dans toutes les démarches pour un achat immobilier en Espagne. Donc, la première démarche qu'on va effectuer, c'est l'obtention du NIE, numéro d'identification pour les étrangers en Espagne, qui est une espèce de carte d'identité sur le pays, qui est obligatoire pour un achat immobilier. Ensuite, on va rechercher les biens sur absolument tout le territoire, dans les critères évidemment de notre client. Derrière, on va prévisiter le bien avant qu'il vienne. Ça lui permet de gagner beaucoup de temps parce qu'entre les annonces et les visites, il y a beaucoup de mauvaises surprises. Donc, nous, on prévisite, on fait une belle petite vidéo du bien et ça permet de faire gagner du temps et de filtrer clairement les biens qu'on a pu voir simplement sur internet. Quand le client va venir, évidemment, on va préparer tout le planning de visite, on va lui donner un point de rencontre et on va l'accompagner sur absolument toutes les visites. Ça lui permet de sortir toutes les questions qu'il a et nous on fait la traduction parce que tous nos agents sont bilingues franco-espagnol, c'est obligatoire chez nous. Et ensuite, évidemment, on passe au moment le plus important, c'est-à-dire la personne veut acheter, la fameuse expertise juridique. Comme je vous ai expliqué juste avant, le notaire et le vendeur n'ont aucune obligation légale de vous prévenir s'il y a un problème juridique. Donc nous, on a notre avocat et on a plusieurs aussi avocats avec qui on travaille de manière externe qui nous permettent de faire une expertise juridique vraiment détaillée pour le client et surtout d'aller se bagarrer avec l'agence vendeuse ou même avec le vendeur directement pour préparer un contrato de arras qui est la promesse d'achat la plus juste et dans le meilleur intérêt pour notre client. Donc nous on prépare tous les papiers pour notre client, on va tout traduire aussi en français, des documents assez compliqués à comprendre, c'est beaucoup de langage très juridique, très spécifique, donc nous on traduit tout, ça permet de comprendre ce qu'on va signer, c'est des gros montants en général, donc les gens sont quand même très très intéressés de savoir ce qu'ils vont signer, donc on fait l'expertise juridique, on prépare les contrats et on les traduit. Pour terminer, quand tout est ok, on gère tout ce qui est les virements pour les achats et autres. On prépare aussi tout ce qui est rendez-vous notaire et on va accompagner directement l'acheteur qui est notre client chez le notaire. Il faut savoir qu'en Espagne, si on parle pas la langue, il est obligatoire d'être accompagné d'un traducteur. Nous, on est totalement... on a le droit d'y aller. Enfin, je trouve pas le mot. Mais en tout cas, on fait office de traducteur le jour de la signature chez le notaire pour notre client acheteur. Et pour terminer, on va s'occuper de tout ce qui est changement de facture d'électricité et d'eau pour notre client. C'est pareil, quand on est francophone et qu'on sait pas parler la langue, appeler Iberdrola, qui est le SNCF français, pour changer le titulaire de la facture d'eau ou d'électricité, ça peut être très compliqué. Pour terminer, on a mis en place, nous, tout un département qui s'appelle post-vente, en tout cas la restauria, on appelle ça en Espagne, c'est-à-dire... payer les impôts de nos résidents, faire évidemment un peu de rénovation si vous en avez besoin, installer la Wi-Fi. On a tout plein de services extra, on va dire, qu'on vend à nos clients juste après leur achat pour pas les laisser tomber parce qu'il y en a qui vont venir vivre en Espagne ou même qui vont venir passer assez souvent des vacances. Ils ont tout plein de questions et quand on parle pas la langue, évidemment, on est content d'être accompagné par un service francophone qui vous a aidé en plus à acheter le bien immobilier avec qui vous avez confiance, quoi.
Bien, passons à la question du mois qui nous est posée par Lucas de Perpignan. J'envisage d'investir en location saisonnière dans le centre de Barcelone. Existe-t-il, selon vous, le même risque d'interdiction ou de limitation qu'à Paris, plus ou moins brève échéance?
Je crois qu'on a eu un début de réponse.
Alors, sur Barcelone, moi, je peux tout de suite donner la réponse. Il n'y a plus de licences touristiques qui sont données. Hein. C'est terminé depuis quasiment un an et demi, même voire deux ans. La seule manière de l'avoir, c'est de faire un traspaso en Espagne, c'est-à-dire de, comme racheter un fonds de commerce, en fait, vous rachetez une licence touristique déjà, donc un appartement avec une licence touristique. Vous ne pouvez pas racheter une licence touristique et la mettre sur un autre appartement. Vous devez acheter un appartement qui a déjà une licence touristique et vous changez le nom du titulaire de la licence touristique. C'est au jour d'aujourd'hui la seule manière de pouvoir légalement louer votre bien avec les plateformes qu'on connaît tous, Airbnb et Booking.
Eh bien, un grand merci Benjamin Gomez d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes directeur commercial d'Olé Immobilier, spécialisé dans l'investissement en Espagne. Vous l'aurez compris, nous attendons vos commentaires, questions, idées sur la page de l'émission Investir Malin du site de Radio Immo.
Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire-sa-retraite.com dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins. Et n'oubliez pas, demain se décide aujourd'hui. Ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités.
Merci à vous.
Merci à vous.
Investir Malin, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Immo et sur toutes les plateformes de streaming.